Chapitre 31. La bonne étoile. Le samedi 30 juin 2018, à 11h du matin, alors que je dormais profondément dans ma suite du palace, récupérant d'une nuit passée à écrire, je fus réveillé par une série de coups contre la porte. Je pensais d'abord aux femmes de chambre et décidai de ne pas me lever. Mais comme mon visiteur insistait, je finis par les ouvrir dans un demi-sommeil. C'était Scarlett.
« Tout va bien ?»
me demanda-t-elle d'un ton qui était sensiblement plus agacé qu'inquiet. « Très bien, merci. Pourquoi ?»«
Nous devions dîner ensemble hier soir, mais vous aviez sans doute mieux à faire. »
« Mince, j'ai complètement oublié. Je suis vraiment désolé. » «
Moi aussi, je suis désolé. J'ai attendu comme une idiote pendant une heure au restaurant. »
« Pourquoi n'avez-vous pas appelé directement dans ma chambre? Je serais venu aussitôt. »«
Oh, mais figurez-vous que je l'ai fait. C'était occupé. Selon la réception, vous aviez certainement laissé le combiné décroché. Alors je suis revenu ici et j'ai frappé à votre porte. Personne ne m'a ouvert. Vous étiez sans doute en train de vous amuser ailleurs. »
« Non, je vous assure que j'étais ici, dans ma chambre, hier soir. »«
Arrêtez vos histoires !»
m'interrompit Scarlett.
« Vous faites ce que vous voulez de vos soirées, mais ne me prenez pas pour une imbécile. Je vous assure que je ne vous ai pas volontairement fait faux bond. J'écrivais mon livre, je me suis laissé complètement emporter. »
« Au point de ne pas m'entendre frapper à la porte ?»«
Vous savez, quand je vis l'histoire, je suis complètement happé. C'est comme si j'étais moi-même à l'intérieur du roman, dans le décor. Et il y a tous ces personnages autour de moi.
Mais qu'est-ce que vous me racontez ?» se désespéra-t-elle.
« C'est pourtant la vérité, » lui assurai-je. « C'est comme si j'étais dans un autre monde. Écoutez, laissez-moi me rattraper. Dînons ensemble ce soir, s'il vous plaît. »
Elle sembla hésiter. J'insistai encore.
« S'il vous plaît, cela me ferait très plaisir. »«
D'accord, » céda-t-elle finalement. « Mais je vous préviens, l'excuse du livre, ça marche une fois, pas deux. C'est promis. » Ce soir-là, après une journée d'écriture, je retrouvai Scarlett au restaurant italien de l'hôtel.
« Merci d'être venue, » lui dis-je.
« Vous pensiez que j'allais vous poser un lapin ?»«
Je l'aurais mérité. »
Elle me dit alors, « J'ai l'impression que plus votre livre avance, et moins je vous vois.
Je me laisse prendre par le roman. »
« Ça vous arrive souvent ?»«
À chaque roman, » avouai-je.
« C'est désagréable, cette impression que je perds la bataille contre votre livre. »
« Je vous demande pardon. »
Pour changer de sujet, je tendis à Scarlett un petit paquet. J'étais allé à la librairie du village pour lui acheter un cadeau. « À propos de livres, » dis-je, « je vous ai apporté un peu de lecture. » Elle défit l'emballage. C'était un exemplaire d'Autant en emporte le vent. « C'était l'un des livres préférés de Bernard, » expliquai-je. Il m'a raconté l'avoir lu pendant la guerre. Il devait avoir 13-14 ans, et fuyant en voiture avec sa mère et son frère, il lisait Autant en emporte le vent, assis sur la banquette arrière. La rumeur disait que l'aviation italienne pilonnait les convois de civils et Bernard, plongé dans sa lecture, il espérait que l'aviation ne le tuerait pas avant qu'il ait terminé. Il disait que c'était un grand roman.
« Qu'est-ce qu'un grand roman ?» demanda Scarlett.
« Selon Bernard, un grand roman, c'est un tableau. Un monde qui s'offre au lecteur, qui va se laisser happer par cette immense illusion faite de coups de pinceau. Le tableau montre de la pluie, on se sent mouillé. Un paysage glacial et enneigé, on se surprend à frissonner. Et il disait, « Vous savez ce qu'est un grand écrivain ?» C'est un peintre, justement. Dans le musée des grands écrivains, dont tous les libraires possèdent la clé, des milliers de toiles vous attendent. Si vous y entrez une fois, vous deviendrez un habitué. Elle sourit. Je parle un peu de Bernard dans le livre, confiai-je. Qu'en aurait-il pensé?
Il aurait été flatté et gêné à la fois. Il m'aurait dit, si ça peut vous faire plaisir. Comme tous les grands, il était modeste.
Il n'aimait pas être le centre de l'attention. Par exemple, il n'aimait pas que l'on fête son anniversaire. Il était du 9 mai. Évidemment, je lui téléphonais malgré tout à cette date pour le lui souhaiter. Au fond, je crois qu'il n'aimait pas son anniversaire parce que cela lui rappelait son âge. Cela lui rappelait qu'il était né en 1926. Quand des journaux disaient de lui « le vieil éditeur », ça le rendait fou. Un jour, prenant place à bord d'un avion qui devait le ramener de Milan à Paris, où il m'avait accompagné pour célébrer l'édition italienne d'un de mes romans, le steward lui a demandé de changer de siège avec une jeune femme.
« Pourquoi cela ?» avait demandé Bernard.
« Parce que vous êtes assis à côté d'une issue de secours et que vous êtes trop vieux. Le règlement l'interdit. Vous devez avoir la force d'ouvrir l'issue de secours. »«
J'ai plus de force que cette jeune femme, »
avait assuré Bernard.
« Vous devez changer de place, monsieur, » avait insisté le steward. « Je propose de faire un bras de fer avec cette jeune femme », avait alors exigé Bernard. « Celui qui gagne peut s'asseoir à cette place ». Le steward avait évidemment refusé et avait obligé Bernard à changer de siège. Il en avait été furieux pendant une semaine. « Quand même », avait-il dit, « vous vous rendez compte ?» Mais je ne voulais pas m'en rendre compte. Je voulais croire que Bernard vivrait toujours. Je voulais croire qu'il était invincible. Il eut un silence. Je repris ensuite. « Je me souviens de son dernier anniversaire », ajoutai-je. « Mai de l'année dernière, 8 mois avant sa mort. Je l'ai appelé pour le lui souhaiter et cette fois-ci, il ne s'est pas fâché. Au contraire, il m'a répondu d'un ton amusé. « Vous savez, Joël, je me dis que si un policier contrôle ma carte d'identité dans la rue, il regardera avec étonnement ma date de naissance et me demandera « Mais qu'est-ce que vous faites encore là ?»
« Et que lui répondiez-vous lorsqu'il disait ça ?» demanda Scarlett.
Je riais. Je lui disais qu'il nous enterrerait tous. Pas pour le rassurer, mais parce que je le pensais vraiment. Malgré nos 60 ans de différence, malgré son âge, j'avais l'impression qu'il était éternel. Et comme j'avais acquis la conviction que Bernard serait là pour toujours, je me suis toujours promis qu'il serait mon seul éditeur.
Que voulez-vous dire ?
L'édition, c'est comme l'amour. On ne peut aimer vraiment qu'une seule fois. Après Bernard, il n'y aura personne d'autre. Après le succès de mon second roman, tout le monde pensait que j'allais quitter les éditions de Fallois pour rejoindre une maison d'édition plus prestigieuse. « Qu'allez-vous faire à présent ?» me demandait-on régulièrement. « Vous avez certainement reçu des offres des plus grands noms de l'édition française. » Mais ceux qui me posaient la question n'avaient pas compris que le plus grand nom de l'édition française, c'était Bernard. Paris, au mois de mai, 8 mois après l'immense succès de mon second roman. Un journaliste était venu interviewer Bernard au siège des éditions de Fallois, 22 rue La Boétie. Bernard n'aimait pas tellement les interviews, mais il acceptait parfois de se prêter au jeu quand je le lui demandais. J'étais présent dans la pièce également. Après quelques questions d'une affligeante banalité, le journaliste prit un air narquois et demanda à Bernard, sous-entendant que j'allais évidemment céder aux sirènes des grands noms de Saint-Germain-des-Prés,
« Pensez-vous que vous éditerez le prochain roman de Joël ?»
Je devins pourpre de rage et dus me retenir de ne pas chasser le journaliste à coups de pied dans le derrière. Bernard, lui, sourit d'un regard malicieux et répondit « Si le prochain roman de Joël n'est pas bon, je ne le publierai pas. » Je n'oublierai jamais cette phrase, qui résume à elle seule la relation que j'ai entretenue avec Bernard pendant toutes ces années. Bernard me faisait un contrat par livre, sans que cela me lie à lui pour le suivant. « Un livre à la fois », m'expliquait-il. « Si vous n'avez pas envie de travailler avec moi, je ne veux pas vous y forcer. » Ce à quoi je lui répondais « Et moi, je ne vous demande aucune avance. Vous me paierez pour ce que je vends. Si le livre a du succès, tant mieux pour nous tous. S'il n'a pas de succès, nous nous serons au moins bien amusés. » « Le succès, c'est le plaisir de travailler ensemble », me rappelait alors Bernard d'un ton enthousiaste. Le contrat était d'ailleurs signé à la dernière minute, souvent alors que le nouveau roman était déjà à l'impression, tant ceci n'était pas notre préoccupation. Plus que d'avoir su faire mon succès, Bernard m'apprit à gérer le succès, notamment par le rappel perpétuel que tout était à faire. Un peu comme un entraîneur de boxe qui sermonne son poulain après un premier round un peu réussi. Ce n'était que le premier round, il en reste encore 11 à suivre. C'est ainsi qu'une année, jour pour jour, après la parution de mon second roman, il m'écrivit ce courriel. « Cher Joël, aujourd'hui c'est un anniversaire. Le 19 septembre 2012, Harry Kéber faisait son entrée dans toutes les librairies de France, de Belgique et de Suisse. Je ne suis pas fou des anniversaires, mais celui-ci est amusant, parce qu'il montre bien à quel point dans la vie tout se tient, se relie, et prend une signification plus importante. Ce jour-là, 19 septembre, je me souviens avoir été jusqu'à la librairie Fontaine pour voir si le livre était en vitrine. Il y était. Certes, il ne devait pas être partout en vitrine, car nous avions bousculé toutes les règles et toutes les habitudes pour préparer cette mise en vente. Mais dans cette librairie, ce sont des amis. Prévenus par nous, ils s'y trouvaient. En le regardant avec plaisir, il m'est revenu à l'esprit ce beau passage de Proust lorsqu'il raconte la mort de Bergotte. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres disposés 3 par 3, veillaient comme des anges aux ailes éployées, et semblait pour celui qui n'était plus le symbole de la résurrection. Quelle leçon tirer de tout cela ? Que vous n'avez publié encore que 2 livres, et que pour pouvoir un jour les regarder, disposés 3 par 3 aux vitrines d'un libraire, il faut que vous en écriviez encore beaucoup plus. J'espère que nous les regarderons ensemble,
et que nous nous souviendrons du très juste avertissement de Proust. Mon cher Joël, je suis sûr que vous pensez comme moi qu'il ne faut jamais se rassurer trop vite, ni s'endormir sur d'éphémères succès. Mais tout de même, en pensant à l'année qui vient de s'écouler, il me semble que tout cela n'est pas mal. Bernard. Je levai les yeux de l'écran de mon téléphone portable dans la mémoire duquel j'étais allé retrouver l'email de Bernard pour en donner lecture à Scarlett. Bernard vivra toujours en moi, murmurai-je. Que lui diriez-vous s'il était là, à table, face à vous ? Demanda Scarlett. Je lui dirais : Vous me manquez, Bernard. Paris n'est plus la même ville depuis que vous n'y êtes plus. Vous avez changé ma vie, Bernard. Je n'ai jamais pu vous en remercier. Il aurait ri et m'aurait répondu de sa voix chaude : Vous l'avez fait, Joël, ne vous inquiétez pas. Et moi, vous savez, je crois que je n'ai plus envie de publier de romans si vous n'êtes plus là. Il aurait ri encore et il aurait conclu : Mais vous écriviez avant moi, vous écrirez après. Regardez, vous êtes d'ailleurs déjà en plein roman. Je songeais qu'il était difficile de rendre hommage aux gens extraordinaires, car on ne sait même pas par où commencer. Bernard avait donné du sens à ma vie. Il avait toujours veillé sur moi, il avait été ma bonne étoile. Mais il faut bien que les étoiles filent. J'étais ému, je sentais que Scarlett l'était aussi. Elle posa sa main sur la mienne, plongea ses yeux dans les miens. De part et d'autre de la table, nos visages s'approchèrent l'un de l'autre, et nos lèvres aussi. Soudain, une voix nous interrompit. « Madame Léonas ?» Nous nous retournâmes. Un petit monsieur en costume nous souriait. « Pardonnez-moi de vous déranger, madame, je suis le directeur adjoint de l'hôtel. On m'a dit que vous souhaitiez parler avec quelqu'un de la direction et je voulais m'assurer que votre séjour se passait bien. On m'a dit que c'était en lien avec votre chambre. » Scarlett rassura le directeur adjoint en expliquant qu'elle avait simplement voulu lui poser quelques questions sur les événements de la chambre 622. « Si vous le voulez bien, » dit alors le directeur adjoint, « et même s'il ne s'agit pas d'un secret, je préférerais que l'on évoque ceci dans un endroit plus discret. Pourquoi ne nous retrouverions-nous pas un peu plus tard pour discuter de tout cela tranquillement ?» Après notre dîner, des pâtes absolument exquises, sauce tomate et basilic frais pour Scarlett, sauce au beurre et à la sauge pour moi, le directeur adjoint nous invita à prendre un digestif à l'abri des oreilles. Il nous reçut dans le bureau du directeur, une pièce feutrée, meublée à l'ancienne. Face à la cheminée, quatre fauteuils en vis-à-vis offraient un cadre propice à la conversation. « Je sais que vous avez interrogé le concierge à propos de la chambre 622 », indiqua le directeur adjoint. « Nous nous efforçons d'oublier cet épisode tragique de l'histoire du palace. Comme je vous le disais, ce meurtre n'est pas un secret, mais en général, nous préférons invoquer un pieux mensonge pour ne pas effrayer la clientèle. Maintenant que nous parlons honnêtement, que pouvez-vous me dire sur ce meurtre ?» demanda Scarlett. « Malheureusement, je ne peux guère vous aider. Je ne travaillais pas encore à l'hôtel au moment du meurtre. »« Qui était le directeur en place à cette époque ?» demanda Scarlett. « Edmond Rose, » répondit le directeur adjoint. « Le propriétaire historique du palace. C'est lui qui a fait construire cet hôtel. Il l'a ensuite dirigé et on a été l'incarnation pendant des décennies. » Tout en parlant, il avait désigné, suspendu au-dessus de la cheminée, un tableau représentant un homme en uniforme militaire. « C'était un portrait de M. Rose ?» demanda Scarlett. Absolument. De ce qu'on m'en a dit, M. Rose était un homme hors du commun. Lieutenant-colonel de réserve dans l'armée suisse, il était doté d'un charisme naturel et savait se faire obéir, mais il était aussi un homme d'une tendresse extraordinaire. Est-ce que vous sauriez comment nous pourrions joindre M. Rose ? Demandai-je. Malheureusement, il est décédé depuis plusieurs années déjà. Nous aurions vraiment besoin de parler à un employé du palace, présent pendant le week-end du meurtre, dit alors Scarlett. Le directeur adjoint prit un instant de réflexion avant de répondre. « Les équipes se renouvellent souvent, vous savez. Par contre, je pense que M. Bisnard devrait pouvoir vous renseigner. C'est notre ancien directeur des banquets. Il a passé toute sa carrière ici. Il a pris sa retraite il y a une année, mais il habite toujours Verbier. Je le croise souvent le matin au café à côté de la poste. Vous l'y trouverez sûrement. »